Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une véritable leçon de leadership. Je ne vais pas dire au féminin, mais de leadership tout court dans un gant de velours. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Aïcha Albser, bonjour.
Bonjour Yasmina. Merci d'abord pour l'intérêt que tu as porté à mon parcours.
Ben, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir dans Femme d'aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité. Alors, on va commencer. Moi, quand je vois ton parcours, je vois un parcours d'excellence. Nombreuses fois directrice marketing et communication de différents organismes prestigieux. Et puis un jour, Aïcha décide de se lancer à son compte et d'ouvrir son propre cabinet. C'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça.
Et j'imagine, alors quand je dis moi, et puis un jour Aïcha décide de, non, c'est pas un jour, la décision ne vient pas en un jour. Alors justement, plusieurs années dans le salariat, à peu près, on va dire, un peu plus de 20 ans quand même dans le salariat.
Oui,
c'est ça.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ça ne nous rajeunit pas, tout à fait. Et puis un jour, vous décidez de vous lancer, de lancer votre cabinet de conseil en stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que justement, une fois qu'on est bien installé dans les titres, dans la hiérarchie, le salaire fixe qui rentre, etc., on décide de passer à autre chose, de prendre des risques ?
À autre chose. En tout cas, merci pour cette question. Donc, je vais essayer, si tu le permets bien entendu, de revenir un petit peu sur mon parcours.
Bien sûr.
Mon parcours de vie avant que ça soit un parcours professionnel.
Oui.
Donc, mon histoire commence entre Marrakech, Rabat et le sud du Maroc. Donc, je suis fille de militaire, l'aînée de ma fratrie. Donc, autrement dit, j'ai grandi très tôt avec le sens du cadre, de la responsabilité et de l'adaptation surtout. Donc, changer constamment de ville, d'environnement, apprendre à observer avant de parler, comprendre les codes aussi, construire ses repères à chaque fois. Donc, c'est peut-être sans le savoir, c'était déjà une école de leadership. Donc, en fait, cette enfance m'a transmis deux choses fondamentales. Donc, d'abord, le sens des responsabilités. Et puis, la capacité à naviguer, à rester solide dans des contextes un peu inhabituels, souvent hors zone de confort. Donc, c'était un petit peu ça la base. Ce socle m'a naturellement conduite vers des environnements exigeants. Donc, peut-être dans mon subconscient, j'ai toujours cherché la diversité, la multiculturalité. Et donc, comme tu l'as bien dit, depuis plus de 20 ans, j'ai travaillé dans de grands groupes financiers sur 34 marchés en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, au contact, bien entendu, de grands groupes panafricains surtout, et multinationales, d'institutions, etc. Donc, c'est dans des contextes complexes, multiculturels, et surtout sous forte pression, où les décisions comptent vraiment, parce qu'elles engagent bien plus que des chiffres. Très tôt dans mon parcours, je me suis retrouvée au plus près des dirigeants, donc là où se prennent des décisions sensibles, celles qui touchent à l'image, à la réputation, à l'influence, à la gouvernance et aussi à la responsabilité sociétale qui est quand même qui fait partie du soft power.
Absolument.
Donc j'ai vite compris sur ces sujets, la forme ne suffit jamais sans le fond et que le fond sans une narration juste ne tient pas dans le temps. Et donc, c'est sans doute pour cela, consciemment ou inconsciemment peut-être, que j'ai toujours évité, en fait, la posture d'une exécutante. Et mon parcours m'a amenée à travailler aux côtés de grands leaders, donc comme Moulef El Alami, à qui je rends hommage d'ailleurs, et Nedjef Teh, qui est le symbole du leadership tout court, pour ne pas dire féminin. Et aussi Raymond Farhat, qui est un grand monsieur. Donc ça, c'est les derniers patrons en fait qui m'ont réellement marqué dans mon parcours. Et donc dans ce cadre-là, ça m'a permis de comprendre quelque chose de très rare. Ils m'ont donné cette chance d'entreprendre à l'intérieur même de l'entreprise. et pas que moi, enfin, toutes les équipes dirigeantes, on va dire, on était totalement en entrepreneuriat. Mmh. Donc, on avait la sécurité du salariat tout en ayant « sky is not the limit », comme disait tout le temps Moulay Hafid. Donc, c'est là où j'ai compris que ce qui m'animait profondément, ce n'était pas seulement d'exécuter une stratégie, mais plutôt de la penser, de la clarifier, de l'incarner. Et je pense que c'est très clairement là où tout a commencé. Mmh. Et donc, là, c'est un petit peu mon petit parcours pour arriver à la question fatidique qui est donc
le changement.
Comment j'ai sauté, ouais. Voilà, comment j'ai sauté le pas. En fait, à partir de là, je pense que l'entrepreneuriat ne m'a pas transformée, il m'a juste révélée. Donc, créer mon cabinet n'a donc jamais été un saut dans le vide, c'était juste une continuité, la suite naturelle de ce que j'avais vécu et en tout cas au parcours où j'ai été préparée.
Oui.
Donc, juste pour revenir un petit peu à mon parcours, depuis toujours, il y a eu chez moi cette fibre entrepreneuriale. D'ailleurs, bien avant de créer KR Stratégie, j'ai eu dans une vie antérieure, j'ai fait une petite pause dans une carrière pour une expatriation en Angleterre, donc en Royaume-Uni. Et là-bas, j'ai lancé un projet de cosmétiques à base d'argan. C'était juste pour m'amuser.
Ok.
Et en fait, c'était un vrai pari. Et ça a été une vraie réussite au point où mes produits ont été commercialisés chez Harrods. Et je faisais partie des top 3 des produits.
Ah, Aïcha, tu le racontes avec autant de simplicité, c'est incroyable. Tu le racontes avec autant de détachement, en fait.
Je pense que quand on a la chance de faire de sa passion son métier, on a l'impression de s'amuser, en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, Moulay Hafed, quand il nous a embarqués, il ne nous a jamais dit « on va aller conquérir l'Afrique, venez, on va aller s'amuser un peu. Est-ce que vous voulez vous amuser ?»
Ouais.
C'est ça, sa phrase. Et ça résonnait tellement en moi, et ça me rappelait, en fait, la forte signature qu'il y avait dans le groupe, qui est l'audace d'entreprendre. Parce qu'au début, je me dis « bon, ouais, ça fait joli, ça sonne bien, c'est fort, mais est-ce que c'est réellement ça ?»
Oui.
Et en fait, c'était ça, c'était magnifique.
C'était et pas donc, juste un slogan, voilà. C'était donc vraiment l'âme du groupe.
Ah, c'était, oui, c'est ouais. Réellement ça. Et d'ailleurs, je le confirme, c'est très, très, très difficile de revenir au Solaria après cet ADN-là.
Ouais.
En fait. Cet ADN qui était très, très fort.
Alors, en même temps, oui. Tu as dit, c'était pas compliqué, j'étais préparée. C'est vrai que de sauter le pas vers l'entrepreneuriat, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais comme on dit très bien, le mkseb, en fait, ou Rbi fait tellement bien les choses pour nous, qui oujdna. Donc, on avance dans la vie professionnelle, en l'occurrence ici, mais c'est parce que c'est un chemin qui est en train de se préparer pour nous et on ne sait pas, en fait, si on pouvait l'anticiper, on comprendrait, mais c'est qu'une fois qu'on arrive à un certain point, qu'on dit « ah, voilà pourquoi tout ça s'est passé ».
Tout à fait.
C'est vrai.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un chemin,
C'est un chemin,
c'est
tout à fait.
C'est un chemin.
Exactement. Oui. Mais en même temps, entreprendre n'est pas intreprendre. Quand on entreprend au sein de l'entreprise, donc quand on entreprend au sein de l'entreprise, on est protégé en quelque sorte. On a un cadre, on a un capital, on a un salaire à la fin du mois, on a toutes ces choses-là. Quand on entreprend, on est livré à soi-même. C'est vrai que la chance d'entreprendre après 20 ans de carrière, c'est d'avoir déjà une réputation qui est faite, qui est prête. Mais la réputation qu'on a en tant que membre d'un groupe, reste encore ensuite à prouver davantage quand on est entrepreneur et sans la protection qui vient avec.
Tout
ça,
à fait.
Tu l'as géré comment, Aïcha ?
En fait, oui, c'est tout à fait ça. On dit souvent que l'entrepreneuriat apprend le doute, la solitude, la peur.
Ouais.
Je pense que dans mon cas, il m'a surtout appris qui je suis profondément, en fait. D'abord, que je suis orientée décision. Je fonctionne mieux quand je porte la responsabilité finale, décider, assumer, ajuster, corriger. Pas par goût du pouvoir, mais par besoin de cohérence, en fait. Donc la cohérence était importante. Ensuite, j'ai compris que je suis faite pour des environnements complexes, challenging. Je pense que je suis, voilà, je pousse un petit peu à chaque fois la barre un peu plus loin. Plus un contexte est sensible, crise, transformation, exposition médiatique, enjeux politiques ou réputationnels. Donc j'avais, d'ailleurs, j'ai complété ma formation par de la PNL, par du coaching. J'ai accompagné pas mal de, on va dire, personnalités publiques, privées, etc. Et c'était quelque chose qui m'animait parce que j'aime l'humain. J'aime l'humain. Ça, c'est important. Plus je me sens à ma place, en fait, dans cette configuration. Là où certains voient du risque, moi, je vois des angles morts à éclairer. C'est surtout ça. Et puis, enfin, que mon vrai métier n'a jamais été simple. La communication, mon vrai métier, c'est la mise en clarté. Clarifier une vision, aligner une gouvernance, traduire une stratégie en récit crédible, aider surtout un dirigeant à être lisible, audible, légitime. Donc, c'est exactement ce que je faisais déjà en intrapreneuriat. Donc, oui. C'est un petit peu ça. Et puis, le goût du risque aussi, c'est important. Sinon, ça n'a pas de goût.
Sinon, ça n'a pas de goût, exactement.
Ça n'a pas de goût.
Ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que quand on évolue au sein d'un groupe, on se dit, bon, on me connaît, on connaît ma valeur, on sait qui je suis. Mais quand on sort à l'extérieur, est-ce qu'il y a aussi ce doute de ses propres compétences ?
En fait, la question des craintes, un autre regard, je n'écoute pas beaucoup mes peurs, j'écoute ma boussole.
Ah, magnifique.
Donc, en fait, je suis de nature fonceuse, pas inconsciente, mais lucide. La peur est souvent surestimée dans les récits entrepreneuriaux. Chez moi, elle n'a jamais été un frein parce que je ne lui ai jamais donné le pouvoir de décider à ma place, en fait. Ce qui m'a protégée, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'expérience accumulée, c'est la capacité d'analyse, la compréhension des jeux d'acteurs et surtout le travail en amont. Donc, je n'ai jamais sauté le pas sur un coup de tête. J'ai préparé le terrain, un réseau solide, alhamdoulilah, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. En fait, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'à chaque fois que j'ai été dans un pays, profondément, je me sentais chez moi. J'avais mes repères, je créais mes repères, mon réseau, une crédibilité construite, une réputation, une valeur ajoutée claire. Et puis, c'est rare où on trouve des gens qui vous assurent une finalité, un résultat. Souvent, les gens, surtout pour des métiers incertains comme le nôtre, un mot peut changer tout un contexte. Voilà, on voit bien des groupes cotés en bourse qui peuvent du jour au lendemain s'effondrer parce qu'il y a eu un discours, il y a eu une sortie médiatique, il y a eu quelque chose. Donc, généralement, quand je prends un sujet, j'essaye humblement de comprendre, d'être à l'écoute, d'avoir une écoute active, de voir un petit peu quelles sont les finalités. Je ne parle pas d'objectifs, je parle toujours de finalités parce que les gens se mêlent les pinceaux un petit peu dans les modalités. Donc, on essaie de voir un petit peu la finalité. Et puis, la vraie peur pour moi, ce n'était pas d'échouer. La vraie peur aurait été de ne pas être à la hauteur de ce que je savais pouvoir apporter, en fait.
Alors, par rapport à ça, quand tu dis « dans chaque pays où je suis partie, j'ai créé mon réseau », ça c'était avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement c'est la posture, c'est le caractère et puis c'est ce à quoi le Tout-Puissant nous mène en fait sans le savoir, parce que tu créais ton réseau j'imagine, mais tu savais pas que plus tard ça deviendrait éventuellement tes clients, etc., personnel.
Tout à fait, c'est exactement ça. Mais en fait, parce qu'on fait les choses naturellement, et une fois de plus, on revient à ce trait de caractère quand on aime, quand on a la chance de vivre de sa passion et de rencontrer de belles personnes, parce que humainement, c'est de très belles personnes avant qu'elles ne soient leaders et qui vous donnent la chance, qui te donnent la chance en fait d'aller encore plus loin. C'est magnifique en fait. On ne fait que récolter parce que, at least, on n'est pas là pour vendre des prestations. On construit plutôt des relations de confiance.
Exact.
Et cette posture-là, parce que bon, moi j'étais au niveau de la holding, enfin mon dernier poste, je parle toujours de ma dernière expérience, mais j'en ai eu d'autres dans d'autres vies. En fait, c'était pas gagné parce que à l'époque, la stratégie était de construire un pool d'experts et que sur ces différents marchés, aussi bien africains que moyen-orientaux, il fallait prouver qu'il y a une valeur ajoutée, quoi. On était censé être des experts pour accompagner en fait chacune des filiales, et donc chacune des filiales était dans une posture de client. Donc nous, on était là à les accompagner, mais surtout à les écouter, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. D'apprendre d'eux d'abord, de valoriser ce qu'ils font et de ramener peut-être une petite touche d'expertise. Et donc ce n'est que comme ça qu'on peut gagner en fait la confiance, la légitimité. Et c'est ce qui crée par la suite, avec certaines personnes, bien sûr, des relations personnelles, d'amitié, et qui ouvrent pas mal de portes. Mais bien entendu, sans savoir qu'un jour, j'allais atterrir dans l'entrepreneuriat.
Oui. Alors, vous avez posté il y a 2 semaines un post sur LinkedIn, vous l'avez partagé, sur ce qui fait véritablement l'identité du leader, du leadership, en fait. Ce ne sont pas du tout les diplômes, mais c'est le caractère. Et c'est comme ça que vous commencez ce poste. Ça nous amène à cette question de leadership. Au tout début de ta carrière, alors je crois que je t'ai tutoyé. Vous voyez, j'ai tout fait le...
Non, c'est pareil, mais en fait, non, on se tutoie.
On se tutoie, absolument.
C'est plus simple.
Voilà. Alors, au début de ta carrière, c'était quoi ta définition du leadership? Quand tu as au tout début, quand tu as commencé?
La vérité, le leadership, pour moi, c'était au début, c'était quelqu'un qui m'apprenait des choses. J'étais comme la petite fille qui était là à vouloir assoiffer, d'apprendre, de comprendre, de voir que quelqu'un réfléchit beaucoup plus vite que moi, qui voyait la finalité que moi, je ne voyais pas. Et donc, c'était une posture d'enfant vers le père. Donc, c'était un petit peu ça. Mais au fur et à mesure, quand on grandissait, que j'ai grandi et que j'ai compris auprès, bien sûr, de personnes, bien sûr, chaque personne t'apporte quelque chose. Et ce n'est pas forcément le poste ni la posture qui font que la personne va avoir de la légitimité et du leadership. Et en fait, de par mon parcours, j'ai compris une chose, que ces leaders ne cherchent pas quelqu'un qui parle bien, ils cherchent quelqu'un qui comprend vite, qui voit loin, qui ne les met pas en difficulté. Quand tu arrives à comprendre les codes rapidement, à naviguer dans des environnements complexes, à voir des gens qui peuvent prendre des décisions à des moments compliqués, parce que quand on est à l'aise, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand on est en difficulté, on est devant une complexité, devant une crise, et qu'on arrive à prendre des décisions tout en restant serein, en se disant peut-être qu'on va se tromper, mais on gérera, il n'y a pas de problème. Et qui arrive à surtout en fait, procurer de la confiance et de la sérénité aux équipes, là on sait qu'on est face à un leader. Et ça, j'ai eu la chance de fréquenter vraiment de très près des gens qui avaient cette posture, qui font confiance déjà. La confiance n'est pas gagnée. Quand on accompagne, si on arrive au métier, un rebranding de groupe, une introduction en bourse, une fusion, une crise médiatique, un repositionnement stratégique, on entre dans l'intimité en fait du pouvoir. Cela exige une posture très particulière, ni complaisante, ni intrusive. C'est ce juste milieu où, en fait, c'est cette posture-là qui crée la confiance et cette confiance qui fidélise.
En tout cas, Ishaël Psa, c'était un plaisir de t'écouter, de t'entendre, de recevoir en fait cette dose de leadership dans un gant de velours, au vrai sens du terme.
C'est très gentil.
Voilà.
Merci. Moi, je dis toujours que voilà, la douceur n'exclut pas la fermeté, et le leadership peut se faire en douceur et en soft power. Et c'est là où on touche réellement les gens. Absolument. Ça, c'est très important.
Oui. Merci beaucoup, Aïcha. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média, et à tout moment, à la demande et en avant-première. sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.